sur des sujets chrétiens, des thèmes chrétiens ou la vie chrétienne. Donc voilà, ce matin, j'aimerais vous parler de comment se préparer aux épreuves et à la persécution. C'est une étude que j'avais commencé à faire plus de 6 mois pour aller à l'église de Lyon, saigner, et ça ne s'est pas fait. Et puis je l'ai, depuis, je pense que j'ai beaucoup retravaillé dessus. Cela nous concerne tous, donc les épreuves nous concernent tous. Est-ce qu'on est tous un jour ou un autre confrontés à une épreuve ou à une persécution dans notre vie? Ce message un peu, il fait suite, je tenais à le faire ce matin, parce qu'il fait suite un peu au message de dimanche passé, vous vous rappelez, la semence qui tombe dans de la bonne terre et qui va porter du fruit. C'est la seule, les oiseaux ont pris l'autre, les pierres empêchent l'autre semence, les épines, donc les mauvaises herbes empêchent, donc le monde empêche cette semence, cette bonne semence de grandir. Et en fait, c'est cette seule terre qui va porter du fruit, il est dit, avec des multiples, suivant la personne qui est la bonne terre. Ce matin, on va plutôt parler des racines qui nous sont nécessaires pour porter du fruit. Donc, on va parler de cette terre. Et ce que nous avons besoin, comment nous avons besoin d'être et d'avoir pour être prêts, donc, dans notre vie de chrétien. Parce qu'on va, de toute façon, tous, un jour ou l'autre, vivre une vie, pas une vie catastrophique, mais vivre une catastrophe naturelle. Moi, j'en ai vécu deux. Je vous dirais, résumé, ça peut être un conflit, un attentat, une situation, une maladie grave, un handicap difficile à vivre. Pour nous, pour nos proches, nous allons être confrontés peut-être au décès d'un proche, à l'abandon d'un conjoint, à un divorce, bref, une rupture scolaire d'un enfant, tout est possible. Une simple fragilité mentale peut devenir une déprime, puis on sait que si une déprime dure plus que 2 semaines, en moyenne, ça peut devenir une dépression. Et puis c'est le stress de notre vie de tous les jours ne nous aide pas, peut causer une dépression, parce que nous vivons dans un stress permanent aujourd'hui. Où il y a l'amour de l'argent, il y a l'opacité, il y a la corruption, il y a le pouvoir qui attire. Chaque semaine apporte son lot de surprises et de scandales. Il y aura toujours des gens impeccables dans notre monde, je pense un peu aux politiques là, bien respectables qui disent aux autres « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Et ils imposent aux autres des privations qu'ils ne voudraient même pas pour eux-mêmes. Souvenons-nous de Jésus en Jean 12, 24. « Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas ». Donc Jean 12, 24. Et des fois d'autres traductions. Donc, Jésus nous dit simplement que la mort et la vie ne sont parties liées l'une à l'autre. Sa mort à lui, elle tue la mort. La mort, c'est notre vieil ennemi. C'est aussi la mort du vieil homme, qui est notre orgueil et qui est le dernier vraiment à vouloir mourir. Quand on parle des fois à mourant, ils disent « ce qui veut encore s'accrocher le plus, ce n'est pas mon corps, c'est mon orgueil qui ne veut pas partir. » Dans Matthieu 7, nous voyons que être prêt et sage selon Jésus, et on va lire ce que Jésus dit là-dessus, c'est de ne pas s'éloigner de Dieu, c'est de le prier, de se nourrir de sa parole. C'est de construire sa vie sur ce que Dieu a fait pour nous et qu'il continue de faire. En résumé, on pourrait comparer, si nous nous comparions à un arbre, en fait, planté dans de la bonne terre, il s'agirait non seulement de montrer que nous sommes solides, bien portants, avec un beau tronc, vous savez, on a des beaux mélèzes au chalet, bien costauds, mais il faudrait aussi avoir des racines profondes, pour puiser le plus loin possible dans la grâce de Dieu, puis rester ferme après avoir tout surmonté. Lisons de ce que Jésus dit en Matthieu, justement 7, donc ce passage de Matthieu. C'est pourquoi, Matthieu 7, 24, 28, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique Je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Dans cette parabole, nous sommes appelés à construire sur la pierre d'angle. Vous savez que toute construction commence par la pierre d'angle, qui est Christ. Sur le rocher qu'il représente, et non pas une vallée qu'il n'a pas de protection, sur une colline, pas sur une vallée. Nous sommes appelés à quelque chose de solide, à construire sur ce qui est solide. Bon, nous savons que, et on sait, on ne sait jamais quand ce que dit Jésus, donc qui est symbolisé par la pluie, par les torrents ou par les vents dans cette parabole, quand cet événement extraordinaire va nous toucher dans notre vie. On ne peut jamais savoir. À l'âge de 27 ans, j'étais étudiant donc à San Rafael, au nord de San Francisco, et j'ai vécu le deuxième tremblement de terre de San Francisco en 1989. Faut dire que deux semaines avant, j'étais à Los Angeles en week-end, et puis qu'on a été à Universal Studios Hollywood, et qu'on a vécu, dans un studio, dans le fameux parc d'attractions Universal Studios Hollywood, on a vécu le tremblement de terre, le fameux, le grand de 1906. Et celui que là j'allais vivre était 100 fois plus petit, parce que c'est juste 1 degré sur l'échelle de Richter, donc était de 7,1, alors que l'autre était de 8,2. Rappelons-nous juste en Italie ce qui vient de se passer, c'était 6,5, donc moindre. Il y a eu quand même 67 morts, il y a eu 7 milliards de dégâts dans la ville, c'était une catastrophe, et notamment tout le quartier nord a été détruit. Et j'aurais dû me trouver dans ce quartier nord parce qu'une étudiante m'a demandé de l'amener à la banque pour retirer de l'argent, parce que j'avais une vieille voiture pourrie et j'étais le seul étudiant à avoir une vieille voiture. Et au dernier moment, elle a annulé, ce qui fait que je ne me suis pas trouvé dans la zone où la route elle s'est fondue en deux. Mais je me suis trouvé sur la plage, sur un gros rocher comme cette pièce, vraiment immense. Et j'ai pris de frayeur quand ce gros rocher, que je croyais sûr, s'est mis à trembler. Et j'ai regardé sur la plage et les gens étaient couchés sur le sable. Ils n'ont rien senti parce que le sable a amorti la secousse. Donc je me suis trouvé tout bête, à dire « qu'est-ce qui se passe ?» J'avais rendez-vous en ville de San Francisco le soir, donc je suis parti à San Francisco. Toute la ville est dans le noir absolu, c'était impressionnant, une ville pleine de lumière. Tout d'un coup, je me retrouve dans une ville noire, avec des gens qui aident la police, avec tout le monde qui est solidaire les uns avec les autres. Je me retrouve je fais juste la boucle de la ville et je dois retourner chez où j'habitais, à Mill Valley, donc au nord de San Francisco, puisque j'étudie à San Rafael. Les gens chez qui j'habitais étaient en souci. Ils étaient au bar, en bas de chez eux, le jeune couple, et le sol a fait des vagues, pour vous dire. Le sol a fait des vagues. Et puis, j'avais ma petite amie en paro qui s'inquiétait, j'avais ma maman qui s'inquiétait, j'avais mes collègues qui s'inquiétaient, puisque je suis parti 3 mois là-bas. Bref, mais je pense que quand un tremblement de terre arrive, c'est quelque chose d'extrêmement, c'est très difficile à vivre parce que moi je prends la terre un peu comme un peu notre mère, parce qu'on a été tiré de la poussière du sol et on va y retourner. Et la terre, en fait, elle nous porte. Et le jour où elle ne veut plus nous porter, on se sent comme des petits enfants à ne pas comprendre pourquoi elle nous fait ça. Et en fait, comme je vous disais, ce quartier de Santa Marina a été le plus touché. C'est là où il y a le plus de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il a été reconstruit sur les anciennes ruines du tremblement de terre de 1906. Et tout ce quartier a été détruit à nouveau, comme il avait été détruit en 1906. Donc il avait été construit sur de la terre remuée, on peut dire sur du sable, comme dans la parabole de Jésus. C'était une folie humaine d'avoir reconstruit la ville à cet endroit-là, sur de telles fondations. Moi, j'étais passablement éprouvé, donc vous savez, il y a un an, quand tous les piliers de ma vie ont commencé à bouger en même temps. Et je dois dire que peut-être que si je m'étais mieux préparé, ben, j'aurais eu moins de dégâts dans ma vie, notamment la perte de mon emploi, parce que je pense que beaucoup de choses se sont améliorées depuis. Il reste des séquelles, mais dans ma famille, mais la perte de... nous avons pu, sauver notre logement, notre toit, nous avons pu nous en sortir, nous en sortons, nous avons pu, grâce à l'amour que vous nous portez, nous avons pu redémarrer dans la vie et nous reconstruire en tant que famille. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout sauver. J'ai pu récupérer ma santé grâce à une opération aussi qui s'est bien passée. Donc même si je suis sous traitement, je vais bien, je suis stabilisé, je pense en tout cas. J'ai beaucoup plus lu les psaumes dans... parce que je vous le dis, parce qu'on ne sait jamais. J'ai beaucoup lu les psaumes dans... Il faut rester humble. Dans les périodes de dépression de ma vie. Des périodes si difficiles à vivre où on ne s'aime plus soi-même. Et je dois dire que si je devrais garder un seul livre dans toute la Bible, ce serait les psaumes. Et j'aimerais lire avec vous le psaume 31 de David. Psaume 31. Éternel, je recherche refuge en toi, que je ne sois jamais déçu. Délivre-moi dans ta justice, rends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, éternel Dieu de vérité. Je déteste ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance. Moi, c'est en l'Éternel que je me confie. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu as mis mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de honte, de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé de mes mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent pour m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel, et je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec insolence contre le juste avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi. comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de son regard. Mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Je me reconnais personnellement dans ce psaume, même si personne n'a voulu m'enlever la vie physique et que la ressemblance, c'est un peu peut-être que des collègues ont comploté pour m'enlever la vie professionnelle. Comme David, par mes réactions à mon travail ou chez moi, j'ai été aussi un objet de grand don tout d'un coup pour mes voisins, mes collègues, qui ne comprenaient plus les mes réactions face au stress, je dirais. Et il y a même des voisins qui ne voulaient plus me parler. Et j'ai surtout fait peur à ma famille. Et je crois aussi à mes amis et à l'Église. Et les gens ne savaient pas quoi faire pour m'aider à m'en sortir. Moi, je trouve qu'il est rassurant d'avoir un modèle de foi comme David, qui est passé par toutes ces périodes de doute et de recherche de Dieu. Face aux épreuves, il n'a pas toujours gardé une foi inébranlable. Il a parfois eu l'impression que Dieu était absent. Ça, c'est important. Mais il est passé au-delà de ce sentiment, parce qu'il ne vivait pas seulement sur le ressenti, sur s'il sentait la présence de Dieu. Et il a persévéré et il a continué à implorer le secours de Dieu. Quel exemple pour notre vie de foi. David était convaincu de la fidélité de Dieu et de son œuvre agissante. Il a appelé l'intervention de Dieu dans une ferme confiance. Il en est sûr, il le sait, Dieu va agir en sa faveur et le protéger en tout temps. Même si il subsiste en lui la crainte d'être trop éloigné de Dieu, peut-être par son péché, parce qu'il sait que Dieu est trois fois saint, pour être entendu. Donc peut-être que Dieu ne m'entend pas, j'ai trop péché. Et il a toujours ça dans ce qui est présent dans sa mémoire et dans son esprit. Je pense que nous allons avoir des épreuves avec nos conjoints, nos enfants, notre famille, notre travail, quand nos voisins, notre famille, nous aurons peut-être des problèmes de santé, des problèmes financiers, certainement des deuils à vivre encore. Il est possible que nous vivions même au sein de l'Église des difficultés relationnelles. À l'exemple en acte 15, de vifs désaccords qu'on a bien étudiés dans les groupes de maison entre Paul et Barnabas, qu'ils ont eu dans acte 13 aussi. Alors qu'ils avaient été envoyés ensemble en acte 13, ils ont eu un vif désaccord en acte 15, il nous a dit. On a aussi l'exemple parmi les sœurs de Évodie et de Saint-Iche, dont les noms signifient, une c'est le bon chemin et l'autre c'est la rencontre. Et on voit que Paul, il joue sur ces deux prénoms, en fait, pour les encourager à avoir, ses sœurs, une même pensée pour le Seigneur. Donc, toi qui t'appelles le bon chemin, toi qui t'appelles la rencontre, eh bien, arrête d'être en désaccord. Et ça ne correspond pas à ta vraie identité en Christ. On n'a pas à être méfiant, à nous sentir attaqués entre frères et sœurs. L'Église est un lieu de paix, est un lieu de repos pour nous les chrétiens. Même si c'est vrai, nous sommes différents et nous avons quelquefois un fonctionnement différent, nous sommes toujours appelés à nous respecter les uns les autres. Jacques 3,16 nous dit que là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de querelle. Donc Jacques 3,16... Il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Et Paul nous exhorte aussi dans ses épîtres à ne pas nous détruire les uns par les autres. Je me rappelle que descendant du chalet, dans une randonnée avec mon beau-père, je suis arrivé dans une forêt où ces gros troncs, une forêt qu'on a chez nous, il y avait certains arbres complètement déracinés, et d'autres qui tenaient bien debout. Donc imaginez, ce ne sont pas des petits arbres, ce sont des arbres comme ça, et puis on en voit des couchés, et puis d'autres solides. Et je me suis dit à mon beau-père, mais parce qu'il connaît toute la région, je lui dis, donc mari de ma maman, mais Georges, qui est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait cela? Puis il m'a répondu avec assurance, mais c'est le vent. Et je me suis dit, mais comment, je lui ai répondu, mais comment le vent a-t-il pu faire cela? J'étais vraiment étonné de la puissance du vent dont parle Jésus. Et je suis rendu compte qu'une forêt, entière, elle est plus forte pour résister, vous savez, au vent, parce que si les arbres se protègent mutuellement les uns des autres, un seul arbre peut-être va se coucher, mais d'autres, quand ils sont plusieurs, eh bien, ce vent va arriver dans... Donc peut-être certains arbres plus exposés, ils vont protéger d'autres. Donc c'est pour ça que certains sont tombés et d'autres pas. Ce n'est pas qu'ils étaient forcément, qu'ils avaient moins de force, mais ils étaient plutôt plus exposés que d'autres. Nous savons que quand il y a une avalanche, nous avons vécu donc, l'avalanche des Volaines avec ma maman qui était litreillée avec ma fille, qui n'avait pas 4 ans. Quand il y a une avalanche, peut-être rien ne peut résister, parce que souvent ça toute la forêt peut partir parce que ça charrie d'autres troncs, des maisons. Il y a une telle puissance que, mais il faut relever que ces avalanches arrivent dans une vallée. Ce n'est jamais sur un sommet qu'il y a une avalanche. C'est jamais sur un rocher. Donc, vous voyez en Italie les drames qui sont arrivés. Et notamment cette avalanche qui a recouvert un hôtel de 4 étages, un hôtel 4 étoiles tout près de Rome, qui est dans une vallée, je ne sais plus le nom. Donc, j'ai moi-même eu aussi dans ma vie un collègue avocat dans 2 banques où j'ai travaillé, qui a perdu son épouse au Sofitel en Thaïlande lors du tsunami. Il a juste eu le temps de saisir la main de ses 2 enfants. Il était en face de sa femme. Comme ça, il a pris ses 2 enfants et sa femme, elle a disparu par les eaux, donc dans les eaux. Son frère était sur place. Bref, ils ont retrouvé la maman seulement 6 mois plus tard. Cet homme habite à Berne, venait travailler à Genève tous les jours. Et bon, on était tous essayés de s'être solidaires avec cet homme au travail. D'autres gens sont partis comme cela. Nous avons besoin de racines profondes en tant qu'arbre. Chaque arbre a besoin de puiser dans ses racines pour se nourrir individuellement. Ce n'est pas un autre arbre qui va le nourrir. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a nos racines qu'on va les puiser dans les racines du voisin pour aller nourrir et piquer dans ses racines. Non, c'est chacun, on se nourrit individuellement avec notre relation verticale avec Dieu. Mais on a besoin les uns les autres pour nous protéger, les uns les autres, solidairement, collectivement. Et c'est pour ça que je vous encourage à ne pas nous priver de la parole et à prier les uns pour les autres, à développer notre communion fraternelle. Donnons-nous des témoignages de notre vie avec Christ et encourageons-nous. Nous sommes appelés à être solidaires, même si nous avons des fois des relations difficiles ou nous avons, par rapport à ce que nous avons pu vivre les uns avec les autres dans le passé, peu importe. Nous sommes appelés aujourd'hui à être solidaires et responsables. Vous savez, je vais juste parler de quelques mots, peut-être un peu dans la persécution qu'il y a en ce moment parmi les chrétiens, parce que... Là, j'étais aux épreuves et maintenant, on arrive à la persécution. Je vais faire un peu plus court. Vous savez, en Occident, nous pensons avoir sacrifié ou subi quelque chose pour Seigneur quand il est arrivé. Bon, on a perdu mon emploi, par exemple. Mais c'est souvent si peu, parce que nous sommes quand même bien assurés, comparé à tous ceux qui ont perdu leur famille, leur pays, leur profession, leur santé, voire leur propre vie, à cause de la persécution qu'ils ont pour leur foi. On pense aujourd'hui à l'Irak, la Syrie, le Moyen-Orient, et tous ces pays en Afrique, et même la Russie, la Chine, tous ces pays tous ces pays de l'Est. La racine du mot persécuter contient l'idée de poursuivre quelqu'un. Ça signifie tourmenter sans relâche, par des traitements injustes et cruels. On dit aussi comme synonyme martyrisé, opprimé, tourmenté. Chez nous, on parle aussi, dans le monde du travail, de presser, de harceler. Dès le début, donc on parle de mobbing en anglais, dès le début de l'Église, des chrétiens ont été persécutés. Aujourd'hui, les chrétiens doivent se préparer à vivre dans une culture inamicale, même chez nous. Ce ne sont pas nos amis, nos collègues. Ils peuvent être adverses, hostiles aux nos voisins. Que l'opposition soit finalement modérée ou extrême, elle est là, elle existe. Et en fait, pour se préparer à la persécution, bien, il faut lire la première épître de Pierre, donc je vous en fais grâce, mais retenez bien, première épître de Pierre, qui parle de consécration, de préparation, de sensibilité et d'intégrité. Être consacré, c'est faire le bien, savoir que faire le bien peut déranger et susciter l'animosité, la jalousie, l'hostilité, jusqu'à la persécution. Heureux ceux qui souffrent, disait Jésus dans les Béatitudes, et Pierre le dit aussi dans sa première épître. Être préparé, c'est être déterminé à être soumis à la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie, qui lui, avec les positions qu'il a connues, peut le mieux nous aider à surmonter et à subir l'opposition. Pierre nous demande de justifier notre espérance, d'être aussi toujours prêt à défendre ceux qui nous interrogent par rapport à notre foi. Vous savez, c'est pas tellement les ennemis de la foi s'intéressent moins en fait à notre position doctrinale en tant qu'Église qu'à la manière dont nous réagissons lors de nos épreuves. C'est ça qu'ils regardent. Cette personne a été éprouvée, comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment est-ce que nous réagissons en tant que croyants, chrétiens, lors de nos épreuves? Et dans ces épreuves, on peut montrer que notre espérance est en Dieu et non simplement dans des circonstances terrestres qui sont favorables. Je vous invite à vous poser une question. Jamais personne ne nous pose de questions, nous devrions nous en poser une. Nous poser cette question, celle-ci. Suis-je à ce point fondu dans le monde pour que rien dans ma vie n'étonne mes contemporains? Suis-je à ce point fondu dans le monde pour que rien n'étonne les autres, finalement? Il faut rester toujours sensible et humble et nous comporter avec douceur et respect et toujours faire l'effort de comprendre l'autre, tout en restant ferme dans notre témoignage. Garder une conscience pure permet aussi de toucher les contradicteurs par nos témoignages. Donc, on a déjà à s'examiner si nous sommes fidèles à sa parole. Lisons à ce sujet 1 Pierre 4, de 12 à 14, qui nous prépare à l'épreuve, qui dit que le chrétien, quand l'épreuve viendra, elle ne le surprendra pas. Bien-aimé, ne trouvez pas étrange le feu ardent qui est au milieu de vous, qui est venu sur vous pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais si vous prenez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez en espérance. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, il sera glorifié, ou il est glorifié. En conclusion, j'aimerais dire, j'aimerais que, je pense que nous devons nous inspirer du psaume 1, versets 1 à 3. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite dans sa loi, il est dit, jour et nuit. Et il sera comme un arbre. Nous revenons à l'arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison, pas hors saison, et dont la feuille, dont l'aspect et la feuille ne flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. Nous, il ne faut pas voir Dieu comme une machine à distribuer, une grande machine distributrice qui répond à nos demandes. Mais il faut voir Dieu comme le Dieu tout-puissant. Dans le tourbillon du temps présent, quand on cherche nos propres intérêts, notre plaisir, nos conforts, cela pourrait devenir une motivation dominante dans nos prières. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif à cela et rester tout le temps humble. Dieu, il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Dieu voit nos cœurs, il connaît le motif de nos prières, et si cette prière est conforme à sa volonté, il répondra si nous écoutons ce qu'il attend de nous, et de chacun de nous, de chacune de nous. Le véritable motif de notre prière est-il que Dieu soit glorifié et honoré par la réponse qu'il va donner? Parce que lui, il se réserve le droit de répondre comme il l'entend. Et il faut qu'il soit glorifié par sa réponse. Puissions-nous, comme Jésus, dire « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, je me sens parfois loin de toi. Parfois, j'ai le sentiment que mes prières ne parviennent pas à tes oreilles. Aide-moi. Aide-moi à garder confiance, la confiance absolue que tu agis encore aujourd'hui et que tu prends soin de moi. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est souvent dominé par le souci du profit, par le confort, par l'absence de risque, par la sécurité à tout prix. Mais toi, tu nous invites à te suivre sur une voie où ne manquent pas les obstacles et l'opposition. Assiste-nous dans les choix que nous devons faire, que nous devons prendre, tous les choix que cela implique. Que nous mettions toute notre joie à marcher avec toi, en comptant sur ta présence fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.